Je voudrais vous dire ma joie d'être là, malgré la fatigue. Pour ceux qui ont compris, donc on a donné un concert hier soir, il y avait un autre concert avant-hier soir, et on a passé une semaine avec 69 enfants, donc imaginez un peu cette longue semaine avec tous ces enfants pour préparer ce concert. Mais quelle joie d'être avec vous, de voir des églises rassemblées, et de revenir dans ce temple où j'ai grandi. Je voudrais corriger un tout petit peu ce qu'a dit Timothée, je me permets, hein, c'est délicat de corriger un pasteur, mais je ne suis pas sûr de donner une conférence cet après-midi. Je serai bien là, à 14h30, si Dieu veut, je ne suis pas sûr d'être un conférencier. Mais cet après-midi, j'ouvrirai mon cœur, et j'aimerais que ce soit aussi un temps d'échange et un temps de prolongement de cette prédication. Voilà. Sur le thème de l'éducation, sur... le souci que nous devons avoir pour les enfants et pour les jeunes. Et même si vous êtes ni parents ni grands-parents, je pense que vous êtes impliqués par cette question-là. Et on doit se rassembler pour échanger, pour prier, pour que nos enfants et nos jeunes soient armés pour vivre dans ce monde difficile. Ce matin, en fait, je voudrais lire quelques passages et puis revenir sur la vie du prophète Daniel. J'ai l'impression, en fait, qu'en écoutant, en relisant, en comprenant ce que Daniel a vécu, eh bien, on peut être véritablement encouragé. Et on peut comprendre peut-être comment il faut s'occuper de nos enfants ou ce qu'il faudrait faire pour que nos enfants puissent être un jour des Daniels ou des Danielleux, pour que nos enfants puissent résister, pour qu'ils puissent être pleins de sagesse, pour que dans les moments difficiles, ils refusent la compromission et qu'ils s'opposent avec tact et intelligence. Pour que nos enfants aient une vie de prière pleine et incroyable comme celle de Daniel, pour que nos enfants aient des rêves et des visions, pour que nos enfants et nos jeunes puissent avoir un impact au plus haut niveau, dans les sphères politiques, ce qu'a fait Daniel et ses amis. Et en relisant cette histoire, vraiment, j'étais impressionné et encouragé. Je pense qu'un des grands risques pour notre jeunesse, c'est le découragement. Et c'est l'angoisse. Et j'aimerais qu'en lisant, en relisant, en racontant avec vous cette histoire, eh bien, que les jeunes présents soient encouragés, qu'ils soient plus angoissés, et que les plus mûrs ou les moins jeunes parmi nous soient aussi encouragés. Parce que c'est parfois nous les plus âgés qui angoissons les plus jeunes, par notre rapport au monde, par notre inquiétude, parce que les temps changent, et parce que le monde est si mauvais, et parce qu'on se fait tellement de soucis pour nos enfants et nos jeunes qu'on les stresse encore plus. Je voudrais lire dans le livre du prophète Daniel, la fin du livre, au chapitre 12, avant de revenir sur tout ce que Daniel a vécu. Chapitre 12, verset 5. Tandis que moi, Daniel, je contemplais cette vision, deux autres personnages apparurent, debout de part et d'autre du fleuve. L'un d'eux s'adressa au personnage vêtu d'habits de lin qui se tenait au-dessus de l'eau du fleuve et lui demanda « Quand ces événements extraordinaires prendront-ils fin ?» Le personnage aux habits de lin leva les deux mains vers le ciel et je l'entendis déclarer « Je le jure au nom du Dieu qui vit pour toujours. Ces événements dureront 3 ans et demi. » Ils prendront fin quand la puissance du peuple de Dieu sera entièrement brisée. Je ne sais pas si vous avez compris cette parole. Quand la puissance du peuple de Dieu sera entièrement brisée. Moi, Daniel, j'entendais ces paroles, mais sans comprendre. C'est pourquoi je demandais à mon Seigneur, comment tout cela se terminera-t-il ? Ne t'inquiète pas, Daniel, me répondit-il. Ce message doit rester soigneusement caché jusqu'au moment de la fin. Beaucoup de gens seront purifiés, blanchis, affinés par les épreuves. Les gens mauvais, incapables de comprendre, continueront de commettre leurs crimes, mais les gens intelligents comprendront ce qui se passe. Depuis le moment où l'on ne pourra plus offrir à Dieu le sacrifice de chaque jour et où l'horreur abominable sera placée sur l'autel, et on évoque ici évidemment la destruction du temple de Jérusalem, il s'écoulera 1290 jours. Heureux ceux qui demeureront fermes dans leur attente pendant 1335 jours. Quant à toi, Daniel, tiens bon jusqu'au bout. Alors tu auras droit au repos, puis tu te relèveras pour recevoir ta récompense à la fin du monde. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous avons besoin de ton aide et de ton esprit pour que tu parles à nos cœurs, que nous puissions comprendre ce que Daniel a voulu dire, ce qu'on a voulu dire en écrivant cette histoire, ce que tu veux nous dire aujourd'hui pour les enfants, pour les jeunes et pour chacun d'entre nous. Renouvelle notre intelligence, Seigneur, et rends-nous capables d'entendre. Amen. Je vais essayer d'être court. Ça fait peur quand un pasteur dit « je vais essayer d'être court ». Je pense qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de mots et de beaucoup de temps pour dire les choses importantes. Mais quelle histoire que l'histoire de Daniel ! Quelle vie ! Je voudrais qu'on essaie, en faisant un rapide survol de cette vie, de comprendre ce que Dieu nous appelle à vivre. Les leçons qu'il nous donne au travers de cet homme et de ses trois amis. Si vous connaissez l'histoire, je n'ai presque pas besoin de vous en parler, pour ceux qui la connaîtraient mal ou qui ne se souviennent pas bien. Le premier défi qui se présente à Daniel, c'est ce moment où il aurait pu se dire « c'est pas si grave ». Quand Daniel est déporté, il est choisi parce qu'il fait partie de ces jeunes gens qu'on va amener loin de chez eux parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont intelligents et parce qu'ils font partie de la classe supérieure. Et que c'était peut-être même une technique de l'époque pour affaiblir un peuple. Voilà, les meilleurs, on va les enlever du pays qu'on vient de conquérir pour affaiblir ce pays et pour que ces jeunes gens leur donnent notre culture, nos convictions, nos valeurs. Alors, Nabucodonosor ou Nebuchadnezzar avait demandé à ce qu'on choisisse quelques jeunes hommes et qu'on les amène et qu'on les déforme. Et Daniel avait été choisi à cause de sa beauté, de son intelligence, de sa richesse. Le premier moment important de la vie de Daniel, c'est ce moment en fait où il va décider avec ses amis de ne pas manger la nourriture du roi et le vin, de ne pas boire le vin du roi. Et honnêtement, quand on y réfléchit et quand j'essaie quelques instants de me mettre à la place de Daniel, je pense que j'aurais manqué la première épreuve. Vraiment. Je ne sais pas ce que vous en pensez, si honnêtement on relit ce récit et qu'on se dit « qu'est-ce que j'aurais fait à la place de Daniel ? Déporté dans un pays étranger, dans une langue étrangère, où on me demande simplement de manger la nourriture du roi et de boire du vin pour être présenté au roi et pour faire partie peut-être des conseillers du roi. Eh bien, j'aurais fait profil bas. J'aurais dit « après tout, Seigneur, on est déporté, on est vivant, c'est pas si grave ». On se demande même ce qui était grave dans le fait de manger la nourriture du roi et de boire du vin. On pourrait en parler pendant des heures. Mais Daniel et ses amis ont été convaincus que c'était impur, qu'il ne fallait pas le faire et qu'il ne le ferait pas. La force de Daniel à ce moment-là et la force de ses amis, c'est de dire non, mais avec sagesse. En disant à celui qui était responsable d'eux, « Écoute, s'il te plaît, donne-nous 10 jours. Et pendant 10 jours, on va manger des légumes, pas la viande, pas le vin, et tu verras si vraiment on n'est pas en mauvaise santé. » Parce que la crainte de celui qui s'occupait d'eux, c'était de dire, « Moi, je risque ma vie. Si je vous présente devant le roi et que vous n'êtes pas en bonne santé, je risque ma vie. » Daniel et ses amis vont tenir bon, mais avec quelle intelligence ! Et Dieu va bénir cette fermeté, ce refus de la compromission, cette entièreté. Vous savez, il y a des gens qui sont entiers, c'est un peu leur caractère. Mais Dieu nous demande d'être entiers, même si ce n'est pas notre caractère, et de refuser la compromission. Voilà le premier test qui était présenté à Daniel, et c'est réussi. Et Daniel va devenir un des conseillers du roi. Dans l'histoire de Daniel, si on déroule, eh bien, il va y avoir aussi ce rêve que fait Nebuchadnezzar, ou Nabucodonosor. Et ce moment où il dit, eh bien maintenant, vous allez m'aider à interpréter ce rêve. Et au lieu de faire comme on faisait d'habitude, on raconte le rêve et on demande aux conseillers d'interpréter le rêve, il leur dit, non, vous allez me dire le rêve que j'ai fait et vous allez l'interpréter. Et là, les conseillers du roi, ils disent, avec tout le respect que nous devons, c'est pas possible ce que tu demandes. Personne n'a jamais fait ça. On est prêt à t'expliquer ton rêve, mais il faut nous dire le rêve. Et Nabucodonosor entre dans une colère folle. Je sais très bien que vous allez inventer des interprétations. Je veux que vous me disiez le rêve que j'ai fait et que vous l'interprétiez. Et Daniel, qui était conseiller du roi, va se retrouver associé à cette colère de Nebuchadnezzar. Finalement, comme vous n'êtes pas capable de le faire, eh bien, je vous demande d'exécuter tous les sages du royaume, Daniel y compris. Le deuxième test qui se présente à Daniel, c'est de savoir comment réagir dans cette difficulté-là. Et Daniel va encore une fois faire preuve de sagesse et d'humilité. Daniel va demander aux gardes responsables, en quelque sorte, de cette exécution, s'il ne serait pas possible de rencontrer le roi. Daniel va prier et va demander la prière, il va prier avec d'autres pour que Dieu lui révèle ce rêve et qu'il puisse aller devant le roi. Et Daniel va pouvoir raconter au roi son rêve et interpréter son rêve. Ce rêve qui parle de ce royaume qui va être remplacé et remplacé et remplacé par un royaume inébranlable. Quand on est ferme et quand on est plein d'humilité, eh bien Dieu nous donne à voir des choses qu'on ne voit pas sinon. Si nous sommes découragés aujourd'hui, si nos jeunes sont angoissés, c'est peut-être que nous avons parfois ou souvent manqué de fermeté, que nous avons accepté de manger la nourriture du roi et de boire du vin parce que ce n'était pas si grave. Et que nous n'avons pas su identifier le rêve et l'interpréter, parce que nous n'avons pas pris le temps de la prière, parce que nous n'avons pas demandé l'aide des autres, parce que nous nous sommes crus peut-être trop forts. Ce n'est pas ce qu'a fait Daniel. Et Daniel est devenu encore plus grand dans le royaume. Et Nebuchadnezzar a commencé à reconnaître que ce Dieu-là n'était pas comme les autres. Mais le troisième test, c'est ce moment où Daniel est dans la gloire. Vous imaginez, c'est celui qui a deviné le rêve du roi et qui l'a interprété. Daniel aurait vraiment pu profiter de cette situation-là. Et Daniel a tout fait pour que les regards du roi se tournent vers son Dieu et pas vers lui. Moi, je n'aurais jamais pu trouver ton rêve. Moi, je n'aurais jamais pu l'interpréter. Mais c'est mon Dieu qui m'a révélé ce rêve et qui m'a aidé à l'interpréter. Chaque fois que nous accomplissons un petit exploit, et quand il est grand, c'est encore plus important, que nous puissions vraiment aider les gens à tourner leur regard non pas vers nous, mais vers ce Dieu qui nous a aidés à chaque fois à accomplir le moindre de nos exploits. Quelle leçon ! Est-ce que nos enfants et nos jeunes ont vu ça dans nos vies ? Dans nos églises, chaque fois que notre église a réussi ne serait-ce qu'un petit exploit ou un grand, est-ce que nous avons su tourner nos regards vers Dieu et dire « c'est Dieu qui accomplit cela » ? Chaque fois qu'il y a eu une conversion dans notre église, est-ce que nous avons su dire que c'était Dieu et seulement Dieu ? Je crois que Daniel, pendant toute sa vie, c'est l'impression qu'on nous donne en écoutant ce récit, a su diriger les projecteurs vers Dieu. Alors qu'il est devenu un des hommes les plus importants du royaume, un des hommes les plus importants des royaumes. La vie de Daniel a traversé les royaumes et les règnes. Il a connu plusieurs empereurs. Et il a vu en fait l'instabilité de ces grands. Nebuchadnezzar, en fait, qui reconnaît la gloire de Dieu, eh bien, va ramener la gloire à lui et va vivre ce temps, c'est encore un épisode dans la vie de Daniel, où pendant 7 ans, il va vivre comme une bête sauvage. C'est ce qui avait été annoncé par Daniel et par Dieu, finalement. Et Daniel va rester ferme. Les amis de Daniel ne se prosterneront pas devant la statue de 30 mètres en or, malgré les risques évidents. Et Daniel ne va pas s'arrêter de prier lorsque les sages qui sont à ses côtés, vous savez, à ce moment-là, on a fait un bond dans le temps, Daniel est vieux, c'est un autre empereur. Et il y a 3 surintendants dans le royaume. Daniel fait partie de ces 3. Mais on nous dit dans le texte que Daniel est le plus intelligent et le plus sage des 3. Et l'empereur Darius le sait bien. Et il aime Daniel. Et quand les 2 autres surintendants essaient de trouver une faille dans la vie de Daniel, pour accuser Daniel, pour l'éloigner de ce poste-là, pour l'éloigner de cette influence qu'il a, de cet amour que lui porte l'empereur, eh bien, ils ne trouvent rien. Aucune faute à lui reprocher. Vous savez, c'est un encouragement. Il est possible encore aujourd'hui que dans notre travail, les gens nous regardent vivre, qu'ils cherchent une faute, une faille, et qu'ils ne la trouvent pas. Non seulement c'est possible, mais ça devrait être le cas pour chacun et pour chacune d'entre nous. Nous ne sommes pas parfaits, nous le savons. Mais nous pouvons avoir une vie juste et intègre, nous devons l'avoir. Nous devons ça à Dieu. Il fut un temps, et peut-être c'est encore vrai aujourd'hui, dans votre entreprise, dans votre famille, où les protestants étaient connus pour être des gens honnêtes dans leur travail, des gens sincères, des gens droits, intègres. Ils en devenaient peut-être pénibles parfois, de ceux qui ne veulent pas tricher au travail, de ceux qui vont compter parce qu'un sou est un sou, de ceux qui vont rembourser la petite pièce qu'ils devaient à quelqu'un parce que vraiment je ne dois pas avoir de dette. Est-ce qu'on est encore comme ça? Est-ce qu'on pense encore qu'il faut l'être? Il n'y avait aucun reproche particulier à faire à Daniel, en tout cas rien qui pourrait lui faire abandonner son poste et qui ferait que l'empereur ne l'aime plus. Alors que vont faire les superintendants? Eh bien, ils vont changer la loi pour que Daniel soit hors la loi, avec beaucoup d'intelligence et de ruse, en flattant le roi. Est-ce que ce ne serait pas bien que pendant 30 jours, on dise que tous tes sujets ne doivent prier personne d'autre que toi, sous peine d'être jeté dans la fosse aux lions. C'est pas bien ça quand même, hein? Ça montrerait en fait l'amour que les gens ont pour toi. Et une nouvelle loi est promulguée. Et quand Daniel apprend cette loi, lui qui 3 fois par jour prie le Seigneur, et certainement pas seulement en silence, à pleine voix, avec tout son enthousiasme, toute sa ferveur, je pense que dans le texte biblique, si ma mémoire est bonne, eh bien, Daniel se remet à prier comme il le faisait d'habitude, mais on nous précise qu'il ouvre les fenêtres. C'est incroyable. Je ne crois pas que j'aurais ouvert la fenêtre. Et je ne sais pas quelle aurait été ma vie. Est-ce que j'aurais eu la force de Daniel ? Quelle leçon. Daniel ouvre la fenêtre et continue de prier. Daniel va être jeté dans la fosse aux lions. C'est touchant en écoutant ce récit de voir combien Darius est troublé, peiné. Il aimerait sauver Daniel et il n'y a aucune solution. Un empereur ne peut pas détruire une loi qu'il vient de promulguer. C'était comme ça que ça fonctionnait à l'époque. Et il est malheureux. Et le matin, il vient vite voir si Daniel est toujours là, s'il est vivant. Et Darius va reconnaître que le Dieu de Daniel est le seul vrai Dieu. Le dernier secret, peut-être, de la vie de Daniel, nous l'avons compris, c'est sa vie de prière et son courage. C'est ce moment où il s'oublie pour que Dieu soit glorifié. S'il doit mourir parce qu'il prie, eh bien il mourra. On se souvient des trois amis de Daniel qui vont dire au roi, eh bien, on ne veut pas se prosterner devant ta statue. Notre Dieu peut nous sauver de la fournaise ardente, et s'il ne nous sauve pas, nous ne nous prosternerons pas quand même. Quelle parole extraordinaire! Quel comportement extraordinaire! Le risque, c'est qu'on a l'impression que ce soit au-dessus de nous, au-dessus de nos forces, au-dessus de nos capacités. C'est ce que le diable voudrait qu'on croie. Chacun de nos enfants, chacun de nos jeunes, chacun de nos vieillards est capable de recevoir de Dieu cette force-là pour tenir bon, pour tenir ferme, pour mener une vie de prière digne. Dernièrement encore, pendant le camp, je parlais avec un jeune homme qui me disait « Mais je crois en Dieu, j'ai une relation avec Dieu, mais je n'ai pas de vie d'église. » Et je ne sais pas si c'est si important. Comment tiendrons-nous fermes si nous n'avons pas de vie d'église? Comment tiendrons-nous fermes tout seuls? Comment est-ce que Daniel a tenu ferme dans ces temps troublés, alors que son roi, le roi d'Israël, déplaisait à Dieu, faisait ce qui déplaît à Dieu? Honnêtement, je n'ai pas de réponse précise à cette question. J'aimerais qu'on en reparle cet après-midi. Comment on fait pour tenir ferme? Comment les hommes et les femmes dont on nous parle dans le texte biblique ont fait pour tenir ferme? Mais on a quand même quelques idées. Dieu a mis tellement de choses à notre disposition. Qu'est-ce qu'on en fait? Dieu nous demande d'être sérieux. Dieu nous demande d'être courageux. Dieu nous demande de prier, de passer du temps avec lui. Et si on n'aime pas prier, il n'y a pas besoin que ça dure longtemps. On veut lui parler et l'écouter un peu chaque jour. On veut pousser à la salle, comme disent les jeunes. On veut se fortifier, mais pas juste physiquement. On veut se fortifier spirituellement et collectivement. On ne veut pas être individualiste. Et on tiendra bon. Et on ne s'inquiétera pas. Je ne suis pas sûr que notre monde soit pire que le monde du temps de Daniel. Je ne suis pas sûr que ce soit plus dur aujourd'hui que du temps de Daniel. Mais ce dont je suis sûr, c'est que Dieu n'a pas changé et qu'il veut nous encourager au travers de cette histoire. Daniel qui n'a pas voulu la compromission, Daniel qui a prié, qui a toujours mis le projecteur sur Dieu, eh bien Daniel a reçu des visions. Un homme vêtu de lin, quelqu'un semblable à un fils d'homme dont le royaume n'aura pas de fin. Daniel a vu Jésus-Christ. Que nos enfants et nos jeunes puissent nous voir vivre sans compromission, qu'ils puissent voir notre vie de prière, qu'ils puissent voir notre humilité. Tout ce que nous arrivons à faire vient de Dieu. Et au final, même si on va parler d'éducation cet après-midi, c'est pas l'éducation qui va nous sauver. Ce n'est pas en instruisant de plus en plus les gens qu'on va les libérer du mal et du péché et leur permettre d'être des gens bien. C'est une grâce. Dieu a permis que Daniel tienne bon. Et il permettra que des hommes et des femmes tiennent bon. Il permettra que nous tenions bon. Et il a permis tout ça, même si ça n'a pas empêché qu'Israël soit vraiment puni. Pendant 70 ans, parce qu'il fallait ce temps-là que la puissance du peuple de Dieu soit brisée, que la condamnation de Dieu soit vécue, et que Cyrus, un jour empereur de Perse, décide que le temple sera reconstruit et que les Israélites reviendront dans leur pays. Notre désobéissance, notre lâcheté, notre inconséquence, nos difficultés à avoir une vie de prière belle et pleine, notre manque d'humilité, Tout ça a des conséquences sur l'Église, sur nos forces, sur l'état de nos enfants et de nos jeunes. Mais nous ne devons pas nous décourager. Notre Dieu nous aime. Il fait de grandes choses même avec nos faiblesses. Il est en train de faire des grandes choses parce que nous voulons l'aimer. Notre vie a un impact que nous n'imaginons pas. Alors même que nous sommes inconséquents, alors même que nous avons du mal à ressembler à Daniel, Dieu fait de grandes choses à travers nous. Alors arrêtons de nous décourager. Arrêtons d'être inquiets. Dieu agit. Il continue d'agir dans ce monde, il continue d'agir dans notre église, dans notre pays, dans notre ville, dans notre famille. Est-ce qu'on voudrait le laisser agir encore plus pour que de grandes choses se passent, pour que notre vie change, qu'elle progresse, pour que nos enfants et nos jeunes reçoivent ce qu'ils doivent recevoir. Je voudrais terminer par la prière et je voudrais vous dire que cet après-midi, il y a quelques défis qui se présentent à nous, je pense, et j'espère qu'on en parlera et qu'on pourra échanger. Je pense aux défis de l'école. Ce que vivent nos enfants à l'école aujourd'hui est tellement difficile. Qu'est-ce qu'on doit faire? Dans quel sens on doit prier? Je pense aux défis de l'islam. Comment vivre avec sagesse et intelligence notre rapport aux musulmans? Comment les aimer, les aider? Et dénoncer aussi en même temps, courageusement, avec intelligence, les erreurs qui se trouvent dans l'islam. Je pense à la question du féminisme. Pour que nous ayons beaucoup d'intelligence, nous avons fait tellement de mal. J'aimerais cet après-midi qu'on parle de patriarcat et qu'on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut vivre de mieux, qu'est-ce qu'on peut dire de mieux, comment on peut aider ceux et celles qui se sont sentis et qui ont été blessés, sur quel chemin Dieu veut nous emmener. Et j'aimerais qu'on parle de tout cela en pensant à nos enfants, à nos jeunes, aux enfants et aux jeunes de l'Église. Que Dieu nous vienne en aide. Seigneur, merci pour Daniel. Merci pour cette histoire qui n'est pas qu'une petite histoire pour les enfants. Merci de nous rappeler que tu es à l'œuvre. Merci de nous rappeler que ce que Daniel a vécu, tu veux que nous le vivions aussi. Et merci de nous rappeler que c'est possible. Merci de nous rappeler que tu ne nous abandonnes pas et que tu n'abandonnes pas ton peuple. Tu peux nous punir, Seigneur, et tu as le droit de le faire quand nous te désobéissons, quand nous manquons de fermeté et d'amour, et quand nous ne sommes pas conséquents. Mais tu ne nous abandonneras jamais, Seigneur. Tu n'abandonnes pas tes enfants. Ceux qui se sont confiés en toi, personne ne les ravira de ta main. Nous voulons te remercier, Seigneur, pour l'espérance que tu nous donnes, la force que tu veux nous donner, que nous puissions réaliser cette force que tu mets en nous, cet esprit, que nous puissions te remercier et que tu puisses éloigner de nous, Seigneur, le découragement et l'inquiétude excessive, Seigneur. Bénis nos enfants, bénis nos jeunes, bénis-nous, Seigneur. Amen.